Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de débarquer si vous nous rejoignez seulement et merci d'être là depuis le début si vous êtes là depuis le début. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain très cocasse et Bertrand Chamerois pour un écran de veille très lacrymal. Notre invité, c'est le journaliste et fondateur du journal Le 1, Éric Fotorino, ancien patron du Monde. Il sort un nouveau roman, Marina A, consacré à la performeuse artistique de l'extrême, Marina Abramović. Et quand je dis extrême, c'est l'extrême. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu de Fotorino. Et puis dans les indispensables, quand lui l'univers Marvel rencontre celui des sitcoms dans une série. Margot Barallon nous en dira plus. Et des nouvelles super-héroïnes, c'est Clément Le Saffre qui va nous faire les faire découvrir à travers deux comics. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Rock and roll, c'est ce qu'il y a sur votre pull. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe.
Votre polo est rouge.
Oui, tout à fait.
C'est l'heure de votre écran de veille. Et Bertrand, vous avez également les yeux rouges.
Oui, je sais. Alors, c'était pas voulu. Ça n'a rien à voir avec le pollen. C'est pas la saison. Si mes yeux sont rouges, c'est parce que ce week-end, j'ai regardé La Chanson Secrète sur TF1 présentée par Nikos Aliagas. J'aurais pas dû. Hein. Déjà que je suis à fleur de peau en ce moment, j'aurais pas dû. La Chanson Secrète, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une pub Intermarché, mais qui durerait 2 heures.
Alors, vous connaissez le principe de l'émission. C'est très simple. Une personnalité prend place dans ce fauteuil.
Et on fait tout pour la faire chialer comme un veau. Voilà. Et les téléspectateurs avec. Oui, c'est ça
l'imitation.
Le principe. Et ça fonctionne. Hein. Je me suis retrouvé en larmes en regardant David Douillet et sa famille. J'avais pas prévu de faire ça un vendredi soir, mais chialer devant David Douillet, c'est pas une vie, ça. C'est vrai que c'est super bien foutu, cette émission. De l'émotion et des surprises, c'est imparable. Même si Nikos en fait un peu trop, un poil trop sur le côté surprise.
Chaim ne se doute pas que Tété est là. Et encore moins que ceux qui l'accompagnent sont ses proches, ses amis, ses collègues, ceux qu'il aime.
Si, je pense quand même que Chaim se doute un peu que ce sont ses proches qui lui réservent une surprise, parce que si c'était pas ses proches, ça marcherait quand même beaucoup moins bien. C'est qui le mec qui chante mon vieux là? C'est Patrick Poulinec, il est comptable à la cofrappe du Guilvinec, vous ne le connaissez pas et pourtant il va vous émouvoir. Et non, avec des inconnus, ça ne marcherait pas du tout. Mais ça n'est pas le cas. À chaque fois, les invités finissent au bord de l'apoplexie.
On en veut tellement parce que j'ai jamais pleuré comme ça en télé, c'est un truc de fou en fait. C'est une des personnes les plus importantes pour moi dans ma famille.
Une soirée Suffoc Me I'm Famous qui doit son succès à la production, qui pourrait être certaine de tirer les larmes aux invités, mais le paquet.
Le tableau va s'ouvrir sur un clin d'œil d'un ami qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui. Et sur ce magnifique écran, nous allons voir des photos progressivement apparaître qui vont retracer une partie de l'enfance. Ensuite, Vanessa, la femme de David, va introduire la surprise à travers un hommage à la grand-mère de David qui a beaucoup compté dans sa vie.
Non mais moi, tu me fais ça, je convulse au sol sur la scène dans une mare de larmes. Il y a tellement de guimauves, j'ai chopé le diabète juste en regardant la télé. Comment veux-tu ne pas pleurer avec ça? Ils sont fous! Pour ce tableau, nous allons diffuser des photos de tous les proches décédés de notre invité dans l'ordre chronologique afin de lui rappeler que le temps passe et que l'on n'y peut rien. Ensuite, sa fille, qui a réussi à vaincre une maladie qu'on pensait incurable, viendra interpréter une chanson qui lui rappellera son enfance et ses parents. Et si jamais, malgré ça, l'invité ne pleure pas, notre fauteuil libérera des décharges électriques et Nikos lui balancera du gaz lacrymo dans les yeux. Ça va être un beau moment d'émotion. Voilà, c'était la chanson secrète et si vous voulez vous faire encore plus de mal, je vous conseille d'enchaîner avec le replay de la lettre qui était diffusée le lendemain sur France 2. Normalement, avec ça, vous finissez en PLS dans votre salon. Si ce n'est pas le cas, je ne peux plus rien pour vous.
Merci beaucoup, Bertrand Chamerois. J'ai vu la lettre, ça pleurait beaucoup, beaucoup. Eva.
Je vais essayer de ne pas pleurer.
C'est votre larme, votre larme. C'est votre zapping aujourd'hui sans larmes. Les programmes que vous avez retenus, le thème, c'est quoi?
C'est la cocasserie. Hein. Ah. Alors, on n'est pas dans les larmes, en tout cas, plutôt dans les larmes de joie. Vous savez, c'est ce sentiment d'absurdité qui fait sourire et qui transpire notamment dans la série pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur et dont les nouveaux épisodes sont diffusés ce soir sur Canal+. Vous en avez déjà parlé, Philippe. OVNI, des histoires d'extraterrestres qui rendent dingue le héros Didier Mature, scientifique hyper rationnel, qui se retrouve là face à son assistant Rémi.
Un radiotélescope du Colorado a capté un mystérieux signal radio en provenance de la constellation du Sagittaire. Le type qui faisait les relevés a tellement halluciné qu'il a juste écrit « Waouh » sur le côté de la feuille. Alors du coup, on l'appelle le beau signal. Ça a duré 72 secondes et pouf, il est disparu d'un coup.
Qu'est-ce qui a disparu?
Le signal.
Oh.
Je crois qu'on a été contacté par une civilisation à l'autre bout du cosmos.
Oh, Rémi, perdez pas votre temps avec ça. Un jour, on se rendra compte que c'était juste une perturbation provoquée par un four à micro-ondes.
Alors... Je suis tellement fan de cette série. Voilà. Ne manquez pas la suite des aventures du GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Instructive, intelligente, drôle. Pour moi, c'est vraiment la série de cette rentrée 2021. Tout aussi cocasse, mais alors dans un autre domaine, le récit de Ségolène Royal dans le documentaire Face à face pour l'Élysée. Deuxième partie de ce film dont je vous avais parlé déjà la semaine dernière, qui évoque donc les débats de l'entre-deux-tours. Ségolène Royal revient sur sa préparation avant de se retrouver face à Nicolas Sarkozy.
Il n'y a pas de coaching, de comme un match de boxe. Il n'y a pas de répétition de quelqu'un qui joue le rôle de Sarkozy. On est concentré sur le fond, en fait. Il n'y a pas de truc. Peut-être que j'aurais dû, hein, parce que je pense que je vois dans les équipes américaines, il y a le spécialiste du body language, le spécialiste de comment on regarde et comment on parle et comment on virevolte, etc. Non, il n'y a pas ça.
Alors, elle m'a fait beaucoup rire, Ségolène Royal. Vous allez découvrir des tas d'indiscrétions au sujet de ces rendez-vous politiques. C'est savoureux, très souvent cocasse, notamment quand François Hollande se souvient, vous savez, de sa fameuse anaphore « Moi, président ». Il raconte les détails de ce moment-là. Et puis, la cocasserie et l'absurdité rythment un classique du cinéma américain, Opération Jupon. Film de 1959 avec Cary Grant. Il est commandant d'un sous-marin pendant la guerre contre le Japon. Et Tony Curtis dans la peau d'un lieutenant dragueur qui est bien décidé quand même à faire de cette mission navale un moment de plaisir. D'ailleurs, il a invité à bord quelques femmes, infirmières, officiers, certes, mais des femmes. De quoi échauder les esprits.
Avoir une femme à bord, ça porte malheur, commandant. Et si une porte malheur, alors vous vous rendez compte avec cinq.
Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, Austin? Les jeter par-dessus bord?
Après tout, c'est une idée comme une autre.
Alors, je suis assez fan de ce film qui est totalement loufoque, donc porté par des comédiens extraordinaires et dirigé par un maître de l'absurde, Black Edwards. Je récapitule cette soirée souriante. OVNI est à voir absolument sur Canal+, dès 21h05. Face à face pour l'Élysée et le documentaire croustillant proposé par LCP à 20h30. Et Opération Jupon vous fera sourire sur Arte à 22h30.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Bertrand Chamerois qui a séché ses larmes. À demain.
À demain.
Dans un instant, notre invité, le journaliste et auteur Eric Fotorino, mais d'abord musique avec Kimber Rose.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Oh, I know I've been there before. But I ain't sorry. It's plain to see. Just let go, this time for sure. And in the blink of an eye. And yeah, I made my mistakes. Time to escape. At least I'm gonna give it a try.
Back on my feet, c'était Kimber Rose sur Europe 1. Dans un instant, notre invité, le journaliste et fondateur du journal Le 1, mais légende, mais America également, et ancien patron du Monde, Eric Fotorino, il nous présente son nouveau roman Marina A, et on est dans l'extrême de l'extrême. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Philippe.
Vous avez été le directeur du Monde avant de vous lancer dans l'édition. C'est à vous qu'on doit le 1, ce magazine en forme de feuille qui se déplie. Zadig, 196 pages, presque un livre. Légende, dont on a parlé il y a quelques jours avec ce très beau numéro sur Coluche. America, magazine éphémère, puisqu'il est censé disparaître le jour où Trump va quitter la Maison Blanche. On en reparlera. Mais d'abord, votre actualité, c'est Marina A, un roman chez Gallimard consacré à l'une des plus grandes figures de l'art contemporain, la Serbe Marina Abramović. C'est un roman, mais c'est également un exercice d'admiration. En quelques mots, qui est Marina Abramović ?
Alors, c'est une performeuse. Je ne sais pas si on sait, tout le monde sait ce que c'est qu'une performeuse. C'est quelqu'un qui, finalement, n'expose pas un tableau, mais expose son corps à tout un tas de, bah, quelquefois de violences ou d'expériences extrêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui vous, qui vous fend, qui vous pourfend et qui montre que l'art peut changer votre vie.
Avant de détailler, il y en a beaucoup, sa performance la plus fascinante, qui s'appelle Rythme Haut. Un mot sur l'image du bandeau du livre. On voit Marina face à un homme. Marina bouge grande ouverte face à cet homme, bouge grande ouverte lui aussi. C'est quoi ?
C'est Oula et son compagnon. Hein, ils ont passé une bonne quinzaine d'années ensemble à faire des performances dans le monde entier. Et là, bah, c'est le cri primal, le cri animal. Et là, on n'est pas du tout dans la distanciation physique puisqu'ils sont vraiment à portée l'un de l'autre. Et c'est à celui qui crie le plus fort et en même temps qui entend l'autre.
Ça dure combien de temps ?
Ça dure plusieurs minutes. Ça dure près de 20 minutes.
La performance date de 78. Elle s'appelle Elle existe en vidéo. Extrait. On va être obligé de couper parce que sinon on va perdre des auditeurs.
Oui, j'espère que les gens ne vont pas pleurer. Oui.
Une autre fois, ils se sont embrassés sur la bouche, bouche contre bouche, sans respirer autre chose que l'air de l'autre, c'est-à-dire à la fin du gaz carbonique. Ils ont failli finir asphyxiés. Ça a duré combien de temps, là ?
Là, 19 minutes.
Voilà, c'est 19 minutes. Maintenant, je voudrais qu'on détaille l'expérience la plus folle. Ça s'appelle Rythme Haut. On est en 74, elle a 28 ans. Ça se passe à Naples pour la première. Elle est debout. Dans la pièce, il y a des objets sur une table. Elle ne dit pas un mot, Marina Abramović. Il y a une affiche simplement qui donne la consigne suivante. Sur la table, écrit-elle, il y a 72 objets avec lesquels vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Je suis un objet. Je prends la responsabilité de tout ce qui se passera dans ce laps de temps. Quels étaient les objets et que s'est-il passé, Eric Fotorino, pendant cette performance ?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle dit 72 objets, puis dans d'autres entretiens, elle dit 76. Alors, je me suis toujours demandé les quatre, qu'est-ce que c'est en plus ? Si vous voulez, il y a des objets de douceur. Il y a du miel, il y a des plumes, il y a un verre d'eau, de jus de fruits, des choses très douces, un boa en plumes. Et puis, il y a couteau, ciseaux, rasoir, revolver avec une balle dans le barillet sur les scies. Et donc, les objets, évidemment, de violence. Et la convention, c'est que pendant 6 heures, elle devient un objet et que tout un chacun peut faire ce qu'il veut avec elle, et on verra que ce qui est arrivé aurait pu être sa dernière performance.
Racontez, que se passe-t-il ?
Bien, les gens viennent, au début sont intrigués. Il faut rappeler que c'est une époque où l'art, cet art-là, ce body art, comme on l'appelait, était critiqué en disant c'est des artistes qui font, qui se mettent en avant, qui font beaucoup d'exhibitions, etc. Donc elle dit, ben, je vais être immobile, je ne vais rien faire, je suis là. Mon corps est là, il est à votre disposition. Elle est habillée au départ.
Ouais.
Et au fur et à mesure, d'abord, l'expérience est plutôt amusante. Les gens la prennent en photo, se prennent en photo avec elle, la caressent avec des plumes, etc. Et puis, au fur et à mesure, bah, quelqu'un va lacérer ses vêtements. Un autre va lui donner un coup de rasoir dans la gorge et commencer à boire son sang. Jusqu'au moment, alors il y aura des attouchements sexuels, ouais. Et puis jusqu'au moment où l'un lui met le revolver dans la main à elle et le braque sur sa tempe. Et là, d'autres spectateurs qui deviennent acteurs l'empêchent, et donc il y a une sorte de bagarre entre celui qui veut tenter de la tuer, en tout cas voir si ce pistolet va donner quelque chose, et ceux qui veulent empêcher ça.
Autre expérience, elle se pose nue sur un bloc de glace comme pour se faire congeler. Une autre fois, elle a bu volontairement des substances toxiques. Elle a fait des adeptes. Vous racontez une performance que votre narrateur a vue, j'imagine que c'est vous, dans un musée à Florence. Racontez l'expérience. Pour entrer dans une pièce, il faut passer devant deux personnages, un homme, une femme.
Nus.
Et ils sont très serrés, très rapprochés l'un de l'autre.
Exactement. C'est l'entrée, en fait. C'est comme si, vous voyez, c'est la porte d'entrée d'une exposition. Vous vous dites, ah, ben, je vais entrer dans cette expo. Simplement, vous devez passer entre cet homme et cette femme qui ne se tiennent que par le regard et sont absolument nus.
Vous écrivez page 24, vous la qualifiez ainsi. L'artiste serbe de 72 ans, connu du monde entier, sauf de moi, vous ne la connaissiez pas.
Non.
Et qu'est-ce qui vous a fasciné chez elle ? Et comment se fait-il que vous ne la connaissiez pas alors qu'elle est connue dans le monde entier ? Je veux dire, elle est dans un épisode de Sex and the City, Lady Gaga a tourné un clip à sa manière, absolument, elle-même complètement nue au milieu d'une rivière. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez elle, Eric Fotorino ?
Alors, je pense que c'est le saisissement, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas. Vous imaginez, vous êtes à Florence, vous allez à la galerie des Offices, vous voyez des Botticelli, des David, etc. Et puis vous voyez des images, des grands placards avec cette femme, le portrait de cette femme. Et moi, au début, je me dis, mais est-ce que c'est une cuisinière ? Parce que ouais, je l'ai vue dans le marché de Florence, est-ce que c'est une magicienne, etc. Et je la vois à l'arrière des bus, enfin, partout. Et donc, à un moment donné, j'ai fini par me dire « Mais où est-ce qu'elle est, cette femme ?» Et j'ai compris qu'elle était dans ce Palazzo Strozzi de Florence.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi elle vous fascine à ce point ?
Elle me fascine... Alors, c'est difficile de répondre. Je pense simplement que cette mise en danger m'a dit quelque chose. C'est ce que j'ai voulu transmettre au narrateur de Marina. Elle dit quelque chose sur nous et sur l'autre.
Autre expérience extraordinaire, Hélène Manarino, le portrait inattendu. Non, c'est pas du tout comme ça, le portrait inattendu, c'est beaucoup plus doux. C'est tout de suite après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Eric Fotorino, Marina A, c'est son dernier roman aux éditions Gallimard. Je vous présente Hélène M. Bonjour, bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Eric Fotorino. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Ne soyez pas inquiets, tout va bien se passer. Vous êtes un passionné de vélo, rien d'étonnant quand on sait que vous êtes né la même année que Laurent Fignon et que vous avez eu votre diplôme de Sciences Po le jour où il a gagné le Tour de France. Oh. Une passion qui n'a aucune limite. Alors, pas de Tour de France ce matin, mais le tour de votre vie. Vous pédalez depuis toujours à un rythme effréné, sûr de vous. C'est tout naturellement qu'enfant, lorsque vous vous promeniez dans les bois avec votre maman et un ami, vous déclariez « Maman n'a pas peur dans les bois parce que je suis là ». Malin également à la messe quand vous avez demandé à votre mère, après qu'ait circulé la corbeille de la quête, là, combien t'as pris ? Moi j'ai pris 5 francs.
Alors ça, je pensais qu'on n'avouerait jamais une chose pareille de moi.
Ben voilà, ça y est, c'est avoué.
Vous étiez surtout un cycliste tout terrain. Une enfance marquée par le marché des Capucins à Bordeaux avec votre oncle fleuriste, Guy. Vous l'accompagniez régulièrement. D'ailleurs, le vélo était encore présent puisqu'un jour sur ce marché, vous aviez rencontré le cycliste Roger Labépi.
Eh oui. Labépi.
Labépi, pardon. Je l'écris comme ça.
Ouais, c'est Fotorino. Vrai, en plus, c'est
oui. Excusez-moi. Eric Fotorino, votre occupation préférée, c'était quand même être sur le carrelage noir et blanc de la maison de Nieul pour inventer des courses avec vos petits coureurs en plomb.
Non, je dis ça parce que si vous restez des heures sur le carrelage...
Il faut que je trouve les sources, hein, parce que franchement, c'est très bien sourcé. Ouais.
Mais si vous restez des heures sur du carrelage froid, c'est du Marina Abramovic. Hein.
Ah, carrément, oui. Mais...
Votre chambre était aux couleurs des posters du miroir du cyclisme. Vos parents ont essayé de vous faire prendre d'autres virages, le foot, la boxe, mais sans succès. En revanche, à l'adolescence, vous vous êtes tourné vers la musique. Enfin, la guitare, notamment grâce à lui.
C'est une maison bleue. Accroché à ma mémoire, on y vient.
Et oui, vous savez jouer et chanter du Maxime Le Forestier. Votre parcours artistique a aussi été marqué par votre caméra Super 8 avec laquelle vous filmiez vos frères François et Jean. Remontons.
Voilà. Non, il y a des choses qui remontent. Hein.
Non, c'est vrai, la caméra Super 8, ça m'a donné un regret plus tard, c'est que je ne savais pas que ça existait, la Fémis. Mais je crois que plutôt qu'aller à Sciences Po, j'aurais dû aller...
Fémis, la grande école du cinéma.
Oui, oui, apprendre à la grammaire des images.
Alors, pas de course contre la montre à l'école. Élève moyen, mais bon, moyen. Surtout en rédaction, vous étiez bon. D'ailleurs, un jour, une de vos profs a demandé aux élèves d'écrire un texte sur leur week-end. Malheureusement pour vous, le week-end concerné, vous aviez fait du tricot. Alors, vous étiez gêné au moment de la lecture.
J'ai failli cracher mon eau.
Devant toute la classe, et oui. Alors, passons à une autre étape, Eric Fotorino, étape vitale, le régime du grand sportif. Grâce à votre grand-père qui vous envoyait régulièrement les litchis de Madagascar, là où il vivait, que vous continuez d'acheter sur le marché. Aujourd'hui, vous êtes sablé à la compote de pruneaux de La Rochelle, madeleine au chocolat, les dattes aussi, et avant elle s'accompagnait de lait concentré. Mais vous êtes surtout un homme. Vous réfléchissez là, je vous vois.
Vous êtes... Il est plongé dans tellement d'univers à la
incroyable,
fois.
Incroyable, incroyable. J'ai l'impression que je passe une radio là, qu'on voit tout. Ouais.
Attendez, c'est pas fini.
Non, pas du tout. On est, c'est le début. Non, je rigole. Vous êtes surtout un homme qui ne freine devant rien. Comme à l'île de Ré, vous rejoignez des amis pour le déjeuner en vélo. Alors, vous étiez habillé en tenue donc de cycliste. Mmh. Et un de vos amis vous a prêté des méduses en plastique pour que vous ne restiez pas, justement, avec vos chaussures de vélo avec cale. Sauf que vous êtes resté entre amis jusqu'au dîner. Et puis, vous avez décidé d'aller en boîte de nuit. La boîte à la mode de l'île de Ré, le Buckingham. Vous n'avez pas pu vous changer. Le tout, c'était d'assumer et vous avez dansé comme ça sur la piste
avec
en
les méduses.
Méduses.
Avec les méduses. Oui. Les autres étaient médusés, mais moi, j'étais très heureux.
Alors, ça ne vaut pas votre maillot jaune, enfin votre caouet jaune que vous avez porté pas mal de fois pour aller chercher l'une de vos filles au lycée, souvent accompagnée de votre bonnet bleu délavé. Et votre plus belle équipe, elle est là, vos filles, pour qui vous êtes capable de tout gravir, de gagner toutes les courses. Des filles pour qui vous enregistriez des histoires quand vous étiez grand reporter au Monde. Elles les écoutaient pendant votre absence.
Le petit prince, oui.
Eh oui. Alors, Éric Fotorino, votre quotidien est marqué aussi par quelques étapes importantes. S'occuper du feu de bois en hiver, écouter toujours la même chanson pendant des mois le matin. Et en ce moment, c'est ça.
Je pense à toi, mon
amour, Amadou et Mariam.
C'est bien ça.
Alors, vous n'êtes pas bricoleur, vous ne savez pas faire un café Nespresso, non. Vous perdez souvent les choses. Vous pouvez donner deux rendez-vous en même temps, car vous avez oublié de noter le premier, mais vous vous en sortez toujours. Vous surmontez chaque difficulté et vous vous nourrissez de tout ce qui vous entoure. Éric Fotorino, vous avez fait de votre vie une piste cyclable, sereine, qui vous amène toujours dans le peloton de tête.
Merci beaucoup, Hélène Manarino. Oh là réaction
là. Non, mais d'abord, c'est un super travail d'enquête, hein, ouais. Parce que tout est juste, ce que vous avez dit. Hélas, c'est vrai que toutes mes turpitudes alimentaires, voyez, mes petites madeleines n'ont pas de Proust, mais au chocolat, ça y est, elles ont été démasquées. Les dates, encore, c'est la Tunisie, c'est la géographie du soleil, c'est tout ça.
Et encore, elle a coupé des choses que monsieur et madame Marolex ont une fille, vous nous direz la réponse juste après.
Ah oui, j'ai coupé pas mal
merci
de
beaucoup
choses,
Hélène Manarino, énorme travail d'Hélène, comme d'hab. Dans un instant, notre premier indispensable, Margot Barallon, qui va nous faire découvrir une série qui croise l'univers de Marvel, avec celui des sitcoms, de manière très surprenante. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Marina A, c'est le nouveau roman d'Éric Fotorino, c'est chez Gallimard. Je l'ai dit, c'est un exercice d'admiration autour de cette performeuse serbe, figure de l'art contemporain, Marina Abramović. C'est pas fréquent d'écrire un livre en hommage à une artiste ou un artiste encore vivant ou vivante. Est-ce que Marina Abramović sait que vous avez écrit un livre sur elle ? Est-ce que d'ailleurs vous avez cherché à la rencontrer ?
Alors non, j'ai pas voulu la rencontrer parce que je pense que c'était pour moi un personnage. Et donc c'est pas un document, c'est vraiment un roman. Oui, je crois qu'elle le sait parce que la bande que vous avez montrée tout à l'heure, on l'a demandé à sa fondation qui l'a acceptée après son accord. Donc ils nous ont même donné une très bonne définition de la photo.
Et est-ce que maintenant que le livre est publié, vous allez chercher à la rencontrer ?
Alors, normalement, une grande rétrospective de son œuvre est prévue à la Royal Academy de Londres avant l'été. Et donc, j'aimerais bien faire le voyage de Londres.
Et dernière question à son sujet. Est-ce que vous avez écrit certains passages en vous demandant comment elle allait les recevoir, les prendre si jamais elle lisait votre livre ?
Ça, je fais jamais. Je veux dire, par là, quel que ce soit Marina A ou quelqu'un d'autre, j'écris et je suis jamais dans le surplomb de savoir comment quelqu'un qui pourrait se sentir concerné réagira. Non, la liberté est totale à ce niveau-là.
Et vous la voyez comme une vraie personne ou comme une héroïne ? Est-ce que celle qui vous intéresse ?
Je la vois comme une lanceuse d'alerte. Je la vois comme une lanceuse d'alerte, comme quelqu'un. On parlait de Coluche l'autre jour qui, pour moi, lançait des alertes avec des mots. Elle les lance avec son corps. Et elle expose son corps comme une œuvre d'art. Elle l'expose au danger aussi. Et ce danger, c'est pour nous dire que nous sommes en danger. Et donc, elle nous parle.
On vous suit quand vous parlez de sa première performance et vous parlez des Balkans, de ce qui se passe.
Des guerres de Balkans, oui.
Et là, on le comprend. On vous suit moins quand vous faites le parallèle entre sa vie, ses performances et le Covid.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une expérience, il y a une performance de 1983, au pied d'un palais à Bangkok. Et là, elle est debout, elle tend les bras à un homme, qui est Oulai, son compagnon, qui est tout en haut de l'escalier. Ils se tendent les bras, mais ils ne peuvent pas se rapprocher. Et même leurs ombres ne se touchent pas. Et ça s'appelle l'impossible rapprochement. En 2010, elle fait cette immense performance au MoMA, The Artist is Present, où elle est assise devant une table et à 1,50 m d'elle, 750 000 personnes vont venir croiser son regard. Eh bien, pour moi, c'est la distanciation sociale, l'impossible rapprochement. Et ça nous dit qu'on ne peut pas fonder une société sans l'autre et c'est le regard de l'autre. Donc pour moi, ce n'est pas tant le Covid, c'est la pandémie. C'est l'idée qu'à un moment donné, l'autre est un danger et l'autre doit être protégé.
c'est une super-héroïne pour vous ?
Ah oui, super-héroïne.
Ça ne pouvait pas mieux tomber cette réponse, je ne m'attendais pas du tout à ce que Fotorino me dise oui, mais il m'a dit oui. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ce matin, regardez bien cet enchaînement, vous nous parlez d'une nouvelle série de super-héros diffusée sur Disney+.
Oui, ça s'appelle WandaVision et c'est donc l'histoire de deux super-héros de l'univers Marvel, Wanda Maximoff et Vision. Donc la première, sorcière pleine de super-pouvoirs et le second, un androïde plein de super-pouvoirs aussi. Et alors, chose assez rare chez les super-héros, ils sont mariés. Donc voilà pour le décor.
C'est
et là, vous imaginez sûrement une série pleine d'action et de combats homériques. Et bien, dès le générique du premier épisode, vous saurez que ça n'est pas ça du tout.
Et c'est une vie magique dans une ville toute petite qui est à moitié une machine.
Oh, dis donc.
Alors voilà, on
avec le générique en français.
Oui.
Non, ça sonne bien.
Hein. On est propulsé dans les années 50. D'ailleurs, l'image est au format 4 tiers, en noir et blanc, vraiment comme la télévision à l'ancienne. Et on se retrouve, en fait, dans une sitcom américaine typique de l'époque. Wanda et Vision viennent d'emménager et ils rencontrent évidemment leur nouveau voisin.
Bonjour très cher, je suis Agnès, votre voisine de droite. Ma droite, pas la vôtre. Pardonnez-moi de ne pas être passée plus tôt vous accueillir parmi nous. Ma belle-mère était là, alors j'étais à l'autre bout du pays. Bon, comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Et bien évidemment, quel est votre niveau au bridge?
Voilà, avec les rires enregistrés hein, en prime. En fait, ce premier épisode, c'est une parodie de I Love Lucy, sitcom diffusée dans les années 50. Le second, il va être calqué sur le modèle de Ma sorcière bien-aimée, ça c'était les années 60. Et ensuite, l'écran va s'élargir, passer en couleur, et comme ça balayer des décennies de programmes télé devenus cultes.
C'est un hommage au petit écran ?
Exactement. Dans les décors, les gags et même le jeu des acteurs, c'est truffé de références que le public français aura peut-être pas toutes d'ailleurs. Et pour recréer au plus près ces vieilles séries, eh bien, les conditions de tournage étaient vraiment celles d'une sitcom devant un public, ce qui ne se fait quasiment plus et certainement pas pour les séries de super-héros.
Et justement, pendant que vous parliez, je me disais, mais qu'est-ce que les super-héros viennent faire là, Margot ?
Alors, d'abord, c'est un ressort comique pur, puisque l'objectif de Wanda et Vision, c'est de s'intégrer dans leur nouveau voisinage, donc ils passent leur temps, en fait, à cacher leurs super-pouvoirs. Mais très vite, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Wanda et Vision, par exemple, n'ont aucun souvenir en commun.
Alors, d'où venez-vous tous les deux ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Depuis quand êtes-vous mariés ? Et pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants ?
Oh, je crois que ce que ma femme s'apprête à dire, c'est que nous venons de...
Oui, nous venons de...
Et nous nous sommes mariés en...
Oui, nous nous sommes mariés en...
Eh bien, d'où venez-vous ? Vous êtes mariés depuis quand ?
Alors, il y a aussi objets bizarres qui tombent dans leur jardin. Leurs voisins sont très soupçonneux. C'est même à se demander si le monde dans lequel ils vivent est bien réel. Je ne vous en dis pas plus, mais évidemment, c'est une mise en abîme aussi de la télévision. Il ne faut pas croire que tout est lisse et beau, comme dans une sitcom américaine. En tout cas, c'est vraiment une idée très originale d'avoir comme ça transposé des super-héros dans ces décors, ces ambiances. Au-delà de l'exercice de style qui est vraiment réussi, du plaisir qu'on a à retrouver les coiffures choucroutées des années 80, eh bien, les films de super-héros, ils ont tendance à tous se ressembler, à tourner en rond. Et là, WandaVision, c'est un peu comme The Mandalorian avec Star Wars. On voit que le format de la série, il permet parfois d'apporter vraiment un second souffle à des franchises très fatiguées au cinéma.
Il y a combien d'épisodes ? C'est une longue série ?
Non, c'est 9 épisodes de 30 minutes à la sitcom. Les deux premiers sont déjà disponibles sur Disney+, et les autres arrivent au compte-gouttes tous les vendredis.
Merci beaucoup Margot Barallon et Clément Le Saff qui est avec nous, avec qui on va parler de comics, on avait parlé, mais des personnages dans les BD dites comics vendredi dernier. Merci beaucoup Margot. Réaction Eric Fotorino.
Moi je voudrais faire Ma sorcière bien-aimée, j'aimerais bien voir le passage où avec le nez comme ça elle fait ça et tout.
Oui, ils reprennent vraiment
donc,
les mimiques.
Qu'est-ce qu'ils ont pris
qui
ces pouvoirs-là
dans
parce
les,
que c'était quand même un pouvoir,
série.
Tout était rangé, les chambres des enfants, le dîner prêt. Enfin,
c'est vachement bien. Alors il y a quand même un truc qui marche toujours, c'est qu'en se touchant le nez, on peut envoyer la musique, regardez ça, Flo de la Vega.
Europe 1 Culture Média 9h-11h Philippe Vandel.
S'il est un monde tout autour, oui tout autour qui nous entend, où vont nos rêves de toujours et pour toujours nos rêves d'enfants. Moi je rêve qu'un jour, un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour, un jour tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde. autour qui nous attend. On se dessine nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. On se dessine nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Oui, une étoile pour nous guider. Que sous nos yeux se dévoile le monde dont on rêvait. Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi je rêve que pour toujours, tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Il est un monde autour qui nous attend. On se dessine nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. On se dessine nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Changer, j'ai tant rêvé. Tout en moi, tout y était, j'ai tant rêvé. Autour de moi, là, tout changé, j'ai tant rêvé. Tout en moi, tout y était, j'ai tant rêvé. Autour de moi, là, tout changé, j'ai tant rêvé. Tout en moi, tout y était, j'ai tant rêvé. Autour de moi, là, tout changé, j'ai tant de rêves en moi. Il est un monde autour qui nous attend. On se dessine nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. On se dessine nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel.
Printemps éternel, c'était Flo de la Vega sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable. Nous sommes avec Clément Le Saff qui va nous faire découvrir de nouvelles super-héroïnes tout droit sorties du 21e siècle.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du journaliste et romancier Éric Fautorino, nous parlions de son héroïne. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va rester avec vous, Margot Barallon a quitté ce studio, mais on reste avec vous dans l'univers des super-héros, mais pas ceux qu'on connaît.
Bah oui, parce que même si VandaVision renouvelle bien le genre, ça reste centré sur des héros des années 60. Hein, je les aime beaucoup, là n'est pas la question. Mais un peu de fraîcheur ne ferait pas de mal de temps en temps. Donc j'ai eu envie de vous recommander deux comics sortis très récemment en France et qui font, eux, le pari de créer de nouveaux super-héros, en l'occurrence deux héroïnes.
Alors allons-y Clément, présentez-nous cette nouvelle génération de super-héroïnes.
Alors on commence avec Naomi, hop, je vous la montre, c'est le titre mais aussi le prénom de l'héroïne, une jeune femme qui habite à Port Oswego dans l'Oregon aux États-Unis. C'est un bled dans lequel il ne se passe absolument rien, c'est une enfant adoptée qui rêve d'avoir des super-pouvoirs. Alors quand Superman débarque dans sa ville, elle a comme un déclic, un point de départ un peu méta, voulu par le scénariste de Naomi, Brian Michael Bendis.
C'est une opportunité de présenter un nouveau personnage qui vit dans le nord-ouest des États-Unis. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de super-héros dans ce coin. Donc le point de vue des personnages de Naomi est différent de celui que l'on voit d'habitude. Au début, Superman déboule dans la ville en plein combat et on voit cette scène à travers les yeux de cet enfant adopté. Et il se trouve que Superman est lui-même un enfant adopté et ça, ça va la travailler.
Sur la couverture, elle n'est pas habillée en super-héros, elle a des dreadlocks, c'est un blouson.
Pas du tout, et pendant les trois quarts du comics, d'ailleurs, elle n'est pas habillée en super-héros, puisqu'en fait, Naomi va plonger dans son passé, et elle va découvrir que ses vrais parents n'étaient pas des terriens, et elle se retrouve alors embarquée dans une lutte intergalactique avec, donc, à ce moment-là, à la toute fin, des super-pouvoirs, grâce à un costume doré franchement classe, hein, moi j'aime bien le même, mais elle devient super rapide et super forte. Il n'y a qu'un tome paru en France pour l'instant, donc ça c'est juste le début, les prémices de l'histoire, mais la force de Naomi, c'est que derrière cette histoire assez classique, il y a un ancrage dans la réalité. On parle de filiation, d'héritage, c'est bien écrit, c'est drôle aussi. Et par ailleurs, Naomi est afro-américaine, c'est un détail, mais on ne le dira jamais assez, un peu plus de diversité chez les super-héros, c'est toujours bon à prendre.
Et c'est elle qui a été mise en couverture, et non pas quand elle est dans son costume pailleté. En voilà une de super-héroïne, la deuxième du jour, Clément.
Eh bien, elle s'appelle Becky. Becky n'a pas des super-pouvoirs classiques, son truc à elle, c'est plutôt la magie. Becky, c'est l'héroïne de No Man Omen, un comics italien, c'est assez rare. Hein. Le premier tome est sorti en Italie en 2017, mais seulement l'an dernier. Chez nous. On y suit donc Becky, une grande gueule de 21 ans. Un soir, alors qu'elle rentre d'une soirée, un inconnu l'agresse et il lui arrache littéralement le cœur. Becky se réveille peu après, elle pense que c'est un cauchemar, mais non. D'un coup, elle est contactée par des sorciers qui veulent la recruter pour lutter contre le mal. Et c'est tout son monde qui est chamboulé.
Ouais, sur la couverture, elle a carrément le bras dans le plat. C'est Harry Potter, en gros.
Alors, il y a de ça, oui, mais c'est beaucoup plus sombre, plus violent aussi, plus cru en termes de sang, de nudité. Hein. C'est surtout une histoire de sorcellerie intelligente qui fait appel aux mythologies grecques, nordiques et celtique, avec un concept important au centre, la puissance des noms. Nommer quelque chose, c'est lui conférer une réalité. D'ailleurs, nomen omen, en latin, ça signifie le nom est un signe. Écoutez Marco Bucci, le scénariste.
C'est une histoire de sorcellerie, donc les noms ont leur importance. Ça dit que les noms contrôlent la réalité et donc que notre langage contrôle notre vie. C'est vrai évidemment pour les sorts de magie, mais c'est bien plus que ça. En fait, le langage, la prononciation, la façon de raconter des histoires nous donne le contrôle sur le monde qui nous entoure.
Voilà, l'autre particularité de Nomen Omen, Eric Fotorino est en train de le voir, c'est son style graphique, puisque tout est quasiment entièrement en noir et blanc. Et il y a une raison valable à ça, c'est que Becky est atteinte d'achromatopsie. Elle ne distingue pas les couleurs, donc on voit le monde comme elle le voit. Et les seuls éléments colorés dans les planches, ce sont les effluves de magie. Ça donne un style très, très original à ce comics. Moi, j'ai beaucoup aimé. La preuve qu'avec un peu de malice, on peut encore inventer des super-héros originaux, attachants, et qui n'ont rien à envier aux superstars de Marvel.
Merci beaucoup, Clément Lossaf. C'est vrai que ça donne envie, Eric Fotorino.
Ah oui, le graphisme de Nomen Omen est très spectaculaire, effectivement. Et du coup, les taches de couleurs amènent comme un... On sent qu'il y a quelque chose de... Ouais. Un événement qui se produit.
Non, mais l'achromatopsie, ouais. C'est la bonne excuse pour ne pas avoir à mettre des couleurs.
Hein. Mettre des couleurs, oui, mais enfin...
excuse de scénariste.
Un noir bien noir et un blanc bien blanc, je trouve que ça pète. Comme
vous êtes fan de comics à la base?
Alors, moi, c'est plus la bande dessinée qu'on connaît tous, hein, de Tintin, mais jusqu'à l'Arabe du futur. Enfin, pour moi, je lis tout ça. Mais non, le mot comique, ça me rappelle simplement ce film de Claude Sauté, César et Rosalie, quand Yves Montand est un peu jaloux de David, de Samy Frey, et on voit Montand avec une BD, et il dit « Ah oui, il fait des comics, lui !» Et donc, évidemment, c'est un peu comme ça, un peu condescendant, et c'est évidemment très drôle.
C'était très drôle, très intéressant. Merci beaucoup Clément Lesaffre. Culture Média continue. Fotorino, reste avec nous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Eric Fotorino, journaliste, directeur de plusieurs journaux, on va en dire un mot évidemment, et qui publie Marina A, un roman qui raconte ses pérégrinations autour de cet artiste de l'art contemporain, un phénomène mondial qui s'appelle Marina Abramović. Je ne retrouve plus ma feuille pour vous poser ma question. À la base, ça y est, je l'ai trouvé, vous n'êtes pas quelqu'un de spécifiquement intéressé par l'art contemporain?
Non, je ne le connais pas, j'avoue même une forme d'ignorance, et pendant longtemps une forme même un peu d'indifférence, ce qui est je pense une erreur, mais il faut toujours essayer de compenser ses erreurs. Mais le paradoxe, c'est d'avoir découvert Marina A dans un univers où j'aurais dû me contenter des Botticelli et des Léonard de Vinci.
Je précise justement ce que vous parlez de votre roman. Marina A, c'est ainsi que votre narrateur la nomme, même si on comprend que c'est vous, mais personne dans le métier l'appelle. Ouais. On dit Marina Abramović. Vous écrivez cette très très belle phrase dans la dernière partie du livre. Vous la faites dire à votre narrateur, mais on sent évidemment que c'est vous qui parlez. L'art était à mes yeux le contraire de la contrainte et de l'exigence. Je croyais ça, que c'était du vent, alors que le vent, c'était moi.
Oui, alors je ne sais pas si c'est moi quand même, parce que en fait, ce narrateur, c'est un chirurgien orthopédiste. Donc quand il ouvre un corps, c'est pour le soigner, pour le réparer. Et là, évidemment, ces mutilations qu'il aurait pu penser gratuites, finalement, ont du sens. Et moi, ce que je voulais à travers cette histoire, c'était montrer que l'art pouvait changer votre vie. pouvez vous bousculer et pouvez vous dire des choses, même si vous ne les comprenez pas toutes. En même temps, elles changent quelque chose dans le rapport que vous avez au monde et donc aux autres. C'est le cas de Marina, parce qu'il y a la confiance au bout de tout ça. C'est-à-dire que quand elle se fait, elle est à bout portant d'un arc et d'une flèche que tend Oulaye, on entend des microphones qui font entendre leur cœur. S'il lâche la flèche, elle est morte. Donc il faut avoir confiance. Quand ils s'embrassent, comme vous avez dit, les lèvres soudées pendant 19 minutes, il faut avoir confiance dans l'autre. Quand ils deviennent un seul, c'est-à-dire qu'ils se nouent les cheveux l'un à l'autre en arrière, et ça dure des heures et des heures, je crois 19 heures, il y a une forme aussi de se dire que l'altérité, c'est-à-dire l'autre, c'est aussi une forme d'altruisme, c'est-à-dire je pense à toi.
Si ma grand-mère était là, elle dirait complètement toc-toc.
oui,
c'est ça. Il y a une étrange complainte qui m'a étonné de vous au sujet de la presse. Alors évidemment, vous la faites dire à votre, à votre narrateur, mais vous dites sur votre téléphone, sur un écran muet au restaurant ou une chaîne en continu, déversent ces flashs permanents, ces breaking news qui défilent non-stop sur les panneaux lumineux des gares. L'info coulait partout. Mais en tant que journaliste, vous devriez vous réjouir que l'info coule partout.
Oui, sauf que l'info coule partout sans aucune cohérence et hiérarchie. Et c'est ça qui est gênant quand on rentrait dans des restaurants. Et il y a encore quelques temps, on voyait souvent une chaîne de télévision, souvent la même, et avec à la fois des images, parce qu'il n'y avait pas le son, et puis des bandes passantes avec tout un tas d'infos. Et vous dites qu'il y a une sorte de magma comme ça, et personne ne l'orchestre. Et moi, ce qui me manque, c'est le chef d'orchestre.
Un mot sur America, trimestriel consacré aux États-Unis que vous aviez lancé, magazine éphémère, vous avez annoncé qu'il devrait disparaître le jour où Trump quittera la Maison Blanche. Donc après 16 numéros, ou alors 32 si Trump avait été réélu, vous allez tenir parole, America va s'arrêter.
Mission accomplie, donc c'est avec François Bunel, c'était le contrat de lecture qu'on avait passé avec notre public, et effectivement au bout de 16 volumes, c'est-à-dire 4 années pleines, le 20 janvier paraît le dernier numéro d'America, le numéro 16, donc vous pourrez vous constituer votre collection complète. Ça ne veut pas dire que America ne ressurgira pas à un moment donné sous une forme de hors-série ou autre, mais en tout cas, voilà, cette série est terminée.
Mercredi, vous avez spoilé ma question de mercredi. Mercredi, nous serons le 20 janvier, je recevrai François Bunel, et j'allais lui poser cette question, maintenant je sais que ça va s'arrêter. Julien Bisson, pardonnez-moi, qui sera
Vous le dira, Julien, il vous dira. J'espère qu'il vous dira la même chose que moi.
J'espère, de toute façon, il vous écoute, il intéresse, et vous le patron. Très rapidement, en mars, vous teniez une chronique consacrée au Covid, chaque jour à 18h sur le site de l'hebdomadaire Le 1. Vous pensez quoi de la crise, de la gestion de la crise par le pouvoir, et notamment les vaccinations?
Je pense que c'est vraiment très compliqué. Deuxièmement, je pense qu'enfin, le rythme a rejoint le degré de gravité. Et donc, il fallait prendre de vitesse autant que c'était possible ce virus. Là, je pense qu'on commence à avoir rattrapé, mais il y a toujours un retard. Mais si on se compare, on n'est pas non plus à la ramasse.
Ouais. Si on se compare à Israël, ils étaient à 2 millions. On l'a raconté ce matin, ils étaient à 2 millions le 14. Merci beaucoup, Eric Fotorino. Je rappelle, Marina A, roman et récit en même temps un peu. C'est chez Gallimard. Culture Média revient demain à 9h. Nous sommes avec le cuisinier Norbert Tarrère et le meilleur ouvrier de France, Bruno Cormeret, pour l'émission La meilleure boulangerie de France, et sur M6 évidemment. Et puis Michael Youn, c'est une spéciale M6 demain, tiens, pour une fois, c'est comme ça, hasard la programmation, pour une nouvelle adaptation de sa matinale culte des années 2000. Ça s'appelle Le Morning Night sur M6, juste après le flash. C'est sur Europe 1. Vous retrouvez Anne Romanoff, ça s'appelle Ça fait du bien. Merci encore, Eric Fotorino. Bon vent, à bientôt, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.